Gloire à Dieu. Je vous invite ce soir à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges au chapitre 6 et nous poursuivons cette série commencée le mois dernier sur cet homme Gédéon que le Seigneur a appelé vaillant héros. Et nous lirons ce soir des versets 11 jusqu'au verset 16, Juges 6, 11 à 16. Le titre de ce message ce soir sera « Sors de ton pressoir ». Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Mais mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. » Rappelons quelques points que nous avons vus la dernière fois concernant Gédéon. Et j'avais établi ce parallèle, cette correspondance entre Gédéon et Samson. Premier juge que nous avions étudié il y a quelque temps. Et nous avons vu qu'il y a vraiment une différence entre ces deux hommes. Samson nous semble être quelqu'un qui avait vraiment le profil de l'emploi, la force, le courage, l'audace, l'intelligence. Une destinée même qui semble être préparée par le Seigneur avant même sa naissance, concrétisée par ce naziréat permanent, par cette chevelure impressionnante que Samson portait en tout temps. Et maintenant, nous en arrivons à Gédéon. Et lui, Gédéon, est loin de ce portrait. C'est un agriculteur. Il n'a aucune ambition politique ou religieuse. Il ne rêve pas de devenir un chef militaire. À vrai dire, lorsqu'on voit ses paroles, ses attitudes, il ne semble pas que personnellement, individuellement, il avait les disposition morale pour être un chef, ni même les qualités dans le leadership, mais ce que nous allons voir, c'est que Dieu avait un plan pour sa vie. Et en cela, l'histoire de Gédéon nous enseigne beaucoup, l'histoire de Gédéon est unique, et ce n'est pas simplement une histoire de grands exploits, d'actions héroïques, c'est avant tout l'histoire d'une transformation. Comment Dieu a pris quelqu'un de relativement ordinaire pour en faire un héros, un vaillant héros, selon la parole du Seigneur. Et cette histoire, nous l'avons dit, est encore celle que Dieu désire écrire avec un homme, avec une femme, au milieu de nous, dans ses assemblées. Car après tout, n'est-il pas celui qui se glorifie à travers les choses faibles et folles de ce monde? Et n'est-il pas celui dont la puissance s'accomplit dans la faiblesse de ses serviteurs et de ses servantes? Alors, la rencontre entre le Seigneur et Gédéon se tient là dans une situation quelque peu cocasse, une situation qui en dit long sur la situation d'Israël, accablée par l'oppression de Madian depuis pas mal d'années, et puis aussi sur Gédéon lui-même. Nous le voyons en train de battre son grain à l'intérieur du pressoir à vin. Autrement dit, il se cache par peur d'être vu, d'être dénoncé, de voir ce qu'il fait. Mais nous voyons aussi un homme qui agit avec courage. Malgré les pressions, malgré les risques, eh bien, il a décidé de sauver le peu qu'il pouvait sauver. Parce qu'évidemment, dans le pressoir à vin, eh bien, il n'était pas facile de battre une grande quantité de blé. Ce n'était pas prévu pour. Et en même temps, il faut bien reconnaître qu'un pressoir à vin est un lieu incongru pour battre du blé. Ce n'est pas fait pour cela. Et nous interrogeons, c'est vrai, nous pouvons le faire, pourquoi fait-il cela? Et puis aussi, c'est un lieu fermé, c'est un lieu exigu, pas du tout prévu, et au battage du blé avec le risque d'asphyxie. Avez-vous déjà vu, quand on bat du blé, ça produit une poussière qui peut être étouffante, et là, dans ce pressoir, il risquait de s'étouffer quelque peu. Et pourtant, avec courage et persévérance, il va battre son grain dans ce lieu. Gédéon pensait peut-être se cacher des hommes, se cacher des Madianites. Il ne savait pas encore que son acte de courage était observé, non pas par les hommes, mais par le Seigneur lui-même. Par le Seigneur lui-même. Et alors que Gédéon était tout à son travail, battant le blé, rebattant encore son blé, le texte nous dit que l'ange de l'Éternel vint et il s'assit près de lui. Pouvons-nous considérer un instant ce que le Seigneur fait ? Il prend le temps de s'asseoir. Il prend le temps de s'asseoir et de regarder ce jeune homme se démener à sa tâche. Il prend le temps de peser ses sentiments, de mesurer ses actions. Gédéon ne savait pas qu'il était observé, mais le Seigneur a pris le temps de peser sa vie. Si tu crois peut-être que le Seigneur ne s'intéresse pas à tes actions secrètes, alors tu te trompes. Je ne parle pas ici des choses impures, et ça, nous ne voulons pas offenser le Seigneur, mais je parle de ces actes personnels de courage, de fidélité que nous menons jour après jour, peut-être dans le secret, dans la prière, dans le jeûne, le témoignage, dans le service de Dieu. Nous disons qui nous voit, mais le Seigneur nous l'a dit, ton Père est là. Dans le lieu secret, dans ton lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, dans ton secret, te le rendra. Matthieu 6, 18. Alors le Seigneur a regardé là Gédéon dans son secret, il l'a observé. Et puis ensuite il lui apparut et il l'interpella. Hé, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors on pourrait s'interroger sur cette parole. Est-ce une parole d'encouragement ou est-ce une parole quelque peu ironique ? Non, aucune ironie avec le Seigneur, mais bel et bien une parole extraordinaire. Ce que le Seigneur lui adresse à ce moment-là, c'est une parole d'élection. L'Éternel est avec toi. C'est la même parole que le Seigneur adressa à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué 1,5. C'est aussi la même parole que bien des temps plus tard, Pierre formulera au sujet de Jésus lorsqu'il témoigne à Corneille en disant « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Actes 10, 38. L'Éternel est avec toi. Et ça, c'est une parole qui est là pour susciter la foi dans le cœur de ses serviteurs, afin qu'ils puissent toujours s'appuyer dessus, quelle que soit la situation qu'ils traversent, et de dire, mais si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, qui sera contre nous, qui sera contre moi ? Romains 8, 31, qu'il est bon de savoir que le Seigneur est avec nous, est avec moi, surtout lorsque l'on sert notre Dieu dans un monde qui s'oppose à sa parole. Quand l'ennemi cherchera à saper nos fondements, nous pourrons dire « Je suis là parce que l'Éternel est avec moi ». Mais ce n'est pas tout. Cette parole ne cherche pas simplement à encourager Gédéon, mais Dieu cherche à changer quelque chose chez ce jeune homme. À travers cette parole, Dieu cherche à changer sa mentalité. « Vaillant héros, lui dit le Seigneur ». Alors, je le redisais tout au début de ce message, Gédéon, quel héros ? Oui, Samson, lui, avait tout le profil du héros. Il semblerait que le Seigneur l'ait même programmé pour cela. Mais rien ne semblait désigner Gédéon pour cette appellation. Et lui-même ne se voyait pas du tout en héros. Il y a d'autres héros dans la Bible, on pourrait même parler de David, c'est anachronique avec nos situations, mais bien des années plus tard, David, alors qu'il est encore un jeune homme qui n'a même pas pris Goliath, tué Goliath, il avait au moins à son actif d'avoir affronté le lion et l'ours. Mais Gédéon, qu'a-t-il fait ? Son seul acte de vaillance, c'est d'être rentré dans un pressoir à vin pour y battre du blé. Tu te dis, mais Seigneur, moi vaillant, de quelle valeur suis-je, Seigneur, pour toi et pour accomplir une œuvre ? Je ne suis pas un Samson programmé presque génétiquement, spirituellement, pour des actes héroïques. Je ne suis pas même un David, quelqu'un avec un cœur de lion. Je ne suis pas plus qu'un Gédéon, Seigneur. Alors celui qui voit dans le secret, qui te voit dans le secret, te dit vaillant héros. Et le Seigneur veut t'amener, il veut nous amener à prendre courage en lui et dans les ressources qu'il est prêt à nous communiquer. Il veut affermir notre cœur, car ce qu'il voit dans ton cœur lui plaît. Ces actions secrètes, ces actions de prière, de foi, de consécration, honorent ton Seigneur. Alors nous avons donc notre Gédéon qui est là en train de battre le blé et qui est interpellé par le Seigneur. Et aussitôt Gédéon lui répond presque de tac au tac dans ce verset 13, « Ah mon Seigneur !» Eh bien, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. » Oh, Gédéon pouvait parler longuement, mais il savait aussi que dans cette courte phrase que le Seigneur lui avait apportée, il y avait quelque chose pour lui. Dieu l'avait interpellé. Et par ces quelques mots, Gédéon comprenait bien que le Seigneur était en train de l'appeler à une action de délivrance. Dieu cherchait un homme et Gédéon avait compris que cet homme que Dieu cherchait, c'était lui. Mais ce que Gédéon aussi comprenait, c'est que l'appel du Seigneur allait l'engager dans un nouvel acte de courage, allait l'engager dans quelque chose qu'il ne maîtriserait plus lui-même. Et la première chose, certainement, que l'appel du Seigneur allait enclencher dans la vie de Gédéon, c'est qu'il devrait aller au-delà de lui-même et sortir de son pressoir. Et ça, c'est quelque chose de très exigeant. Servir Dieu dans notre secret, dans notre pressoir, c'est une chose. Mais lorsque Dieu nous amène à aller au-delà du pressoir, à quitter le lieu secret, à aller au-delà de nous-mêmes, de nos capacités, de nos forces, de tout ce que nous avons demandé et pensé, eh bien là, il y a quelque chose qui se dans notre cœur. Et comme il arrive souvent face à un défi que le Seigneur adresse à un homme, un appel qu'il leur présente, Gédéon répondit en donnant au Seigneur des excuses pour rester dans son pressoir. Et ce que nous voyons au verset 13, c'est que tout d'abord il fait référence aux circonstances. Et c'est vrai que l'homme peut facilement faire référence aux circonstances, c'est un refuge facile pour s'abriter. Seigneur, le temps n'est pas bon, tu vois tout ce qui se passe. Mais Seigneur, vaut mieux rester dans son pressoir. Alors il présente l'excuse des circonstances et puis autre excuse aussi qu'il est facile de présenter, c'est l'absence des miracles. Seigneur, il était un temps où il y avait des miracles, il était un temps où lorsqu'on témoignait de toi, il y avait les guérisons, les délivrances et maintenant on dit Seigneur, où donc est cette fameuse puissance ? Où sont les signes ? Où sont les miracles ? Où sont les prodiges ? Et c'est là un moyen discernement de fuir l'appel du Seigneur. Et puis, dernière excuse liée un peu aux circonstances et à l'environnement dans lequel vivait Gédéon, c'est une expression de frustration, l'air de dire, mais Seigneur, si nous sommes dans cette situation, n'est-ce pas le fait de ta décision ? N'est-ce pas le fait de ta souveraineté ? Oui, le peuple a péché, mais c'est toi qui nous as abandonnés, c'est toi qui nous as livrés. Alors dans ta souveraineté, pourquoi est-ce que tu ne changerais pas les choses toi-même ? C'est là aussi une excuse que l'on peut présenter au Seigneur. Je ne pense pas que c'était une fin de non-recevoir que Gédéon adressait à l'ange, ni même l'expression de manque de courage. Je vais vous dire, avant de juger Gédéon, avant de juger Moïse et bien d'autres, il faut avoir été confronté à un tel appel de Dieu pour comprendre la réaction de Gédéon. Avant de dire que Gédéon présenter toutes sortes d'excuses, il faut avoir fait face à ce qu'impliquait l'appel du Seigneur pour notre vie et y avoir réfléchi. Et d'ailleurs, je le disais, on voit la même chose avec Moïse, on voit la même chose avec Jérémie, parce qu'ils sentaient bien que l'appel du Seigneur allait bouleverser leur vie, allait les exposer à toutes sortes de difficultés, d'oppositions, de combats, qui les dépassaient complètement. Ils n'étaient pas prêts pour cela, ils n'étaient pas prêts intérieurement. Dieu allait les préparer, mais au moment où il les prend, qu'ont-ils en eux-mêmes, qu'ont-ils vécu déjà? Ce que j'observe au verset 14, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas sur tous les atermoiements de Gédéon, mais simplement il va lui répondre au verset 14, et j'aime bien aussi ce début d'expression, l'Éternel se tourna vers lui, comme s'il se rapproche de Gédéon encore. Il vient vers lui, et il lui dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Autrement dit, le Seigneur lui demandait de mettre toutes ses excuses de côté et d'aller de l'avant pour combattre l'ennemi. Et là, l'appel du Seigneur est très clair. Si la première fois, Gédéon feignait d'esquiver, maintenant Dieu est très précis. Je t'envoie. Je t'envoie. Arrêtons-nous un instant sur cette force qu'avait Gédéon. Je l'ai dit, Gédéon n'était ni Samson ni David. Il n'avait donc tué aucun géant, ni d'ennemis, ni même conquis des villes. Il n'était qu'un petit agriculteur. Alors quelle était donc cette force à laquelle le Seigneur fait référence? Eh bien, ce qui est certain, c'est que Gédéon, aussi faible soit-il, était un homme qui par ses actions dans ce pressoir démontrait qu'il ne pouvait tolérer l'oppression des ennemis d'Israël. Il refusait de baisser les bras. Il refusait le défaitisme. Et il le démontre en sauvant le peu qu'il peut sauver. Le peu de blé qu'il peut battre et aller cacher, il va le faire. Au risque de sa vie. Et c'est cette force-là que le Seigneur a vue dans le cœur de Gédéon. Cette énergie qui est là dans le cœur de Gédéon. Je vais vous dire, cette force n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour combattre et pour remporter la victoire. Car à ce moment-là, Gédéon aura besoin du secours du Saint-Esprit. Mais c'est pas vrai, c'est pareil pour nous aussi. Le Seigneur ne nous demande pas de combattre et de remporter la victoire avec la force qui est en nous. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous irons. Mais la force qui est en nous et que le Seigneur voit en nous est en tout cas suffisante pour que nous répondions à l'appel de Dieu sur notre vie et surtout que nous sortions du pressoir. Il y a eu un temps pour être dans le pressoir, un temps où Dieu nous a observés, a jugé nos actions, a pesé notre cœur. Ok, j'ai vu cela, mais maintenant cette force, eh bien tu vas l'utiliser pour sortir et pour aller plus loin. Mais vous savez, sortir de son pressoir, sortir de son secret, en quelque sorte, c'est quelque chose qui coûte. Alors, avant de répondre au Seigneur, Gédéon va encore tenter d'argumenter. Non plus en utilisant des excuses générales, mais il va argumenter et trouver, présenter des excuses quant à lui-même. Je pense qu'on le verra la prochaine fois, c'est quelque chose de symptomatique chez Gédéon. Vous y réfléchirez. Il faut toujours deux temps chez lui avant d'entreprendre une action. Hein, vous verrez après les signes, les combats. Enfin, il a toujours besoin de deux choses. Peut-être est-ce pareil pour vous. Ce ne sont pas forcément des gens qui réagissent au quart de tour avec le Seigneur. Il nous faut parfois du temps. Alors certains peut-être diront que c'est de l'hésitation, de l'indécision, de la timidité, du manque d'assurance. Peut-être aussi est-ce de la prudence, de la réflexion. En tout cas, Dieu n'a jamais refusé d'encourager et d'accompagner Gédéon. Il ne répondait peut-être pas comme l'apôtre Paul sur son chemin de Damas. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Gédéon, il fallait un peu plus de temps. Mais malgré tout, il répondait, c'était ça l'essentiel. En tout cas, à ce moment-là, au verset 15, nous voyons que Gédéon va avancer au Seigneur encore trois nouvelles excuses. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre dans Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » La première excuse, c'est celle de l'infériorité. Avec quoi? Avec quoi, autrement dit, je ne suis pas la personne pour cela. Seigneur, avec quoi? Quelle capacité? J'ai rien. Vous savez, souvent, la personne que Dieu appelle est une personne qui voit la situation autour d'elle, qui voit la situation de l'Église, qui voit la situation de l'homme dans ce monde. Mais c'est aussi souvent une personne qui ne pense pas que Dieu puisse l'utiliser. Peut-être parce que tout simplement, quand on voit les choses et quand on veut les voir, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes complètement dépassés. Et là, bien sûr, Gédéon oubliait que le Seigneur lui donnerait les forces et les dons pour accomplir cette mission. Parce que, nous l'avons vu, le Seigneur n'a pas mis la barre juste au-dessus de la terre, il l'a mis très haut, il l'a élevé très haut. Tu iras et tu délivreras Israël et tu combattras et battras Madian. Ensuite, Gédéon va présenter une autre excuse, celle de l'arrière-plan familial. Comme pour dire, mais ma famille est la plus petite. Qu'est-ce que je représente dans ce monde? C'est-à-dire, je n'ai pas de réseau sur lesquels m'appuyer. Je n'ai pas de relation, pas d'influence, pas de moyens. Que veux-tu faire avec moi? Je ne connais personne. Et c'est là qu'il est bon de se rappeler ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. 1 Corinthiens 1, 23, 27. Afin que ce ne soit pas l'homme qui soit glorifié, mais que ce soit le Seigneur qui le soit. Et que Dieu nous utilise, nous en sommes toujours surpris. Enfin, et ça aussi, ça fait partie des excuses que l'homme présente, celle de son jeune âge. Je suis le plus petit dans la maison de mon père, comme pour dire, eh bien, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la force, etc., etc. Mais nous le voyons, le Seigneur, qui connaît la rengaine, ne va pas tenir compte, encore une fois, de toutes les excuses que Gédéon peut placer devant lui. Alors, je ne sais pas toi-même si le Seigneur est venu te parler dans ton pressoir. Je ne sais pas si, peut-être même ce soir ou depuis quelque temps, tu n'es pas en train de lui présenter des excuses, toutes sortes d'excuses. Celles qui concernent le monde en général, celles qui concernent ta propre vie. Mais ces excuses n'intéressent pas le Seigneur. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Mais il voit aussi ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce n'est pas par ta puissance, par ta force, que l'œuvre se fera, mais par l'Esprit Saint. Mais ce que Dieu te demande, c'est que cette force qui te soutient, qui soutient ta foi, ton désir de servir le Seigneur, eh bien cette force-là, tu l'utilises pour sortir de ton secret, pour sortir de ton pressoir. Et puis l'ange, qui maintenant est appelé l'Éternel, va continuer à lui parler et lui donner cette promesse, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Autrement dit, le Seigneur l'accompagnera. Je serai avec toi dans le combat. Et la parole que je te donne, c'est une parole de victoire à saisir par la foi. Oui, je serai avec toi et tu battras. Là, il est important de souligner le « je » et le « tu ». La victoire passe par une étroite collaboration entre Dieu et son serviteur. Il y a la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est que Dieu est fidèle à son appel. Tu es fidèle à l'appel qu'il t'adresse ce soir et peut-être depuis plusieurs temps. Et puis, il y a la part de l'homme, cet engagement, cette obéissance à la parole de notre Seigneur. Mais pour que le « je » et le « tu » travaillant ensemble, remporte la victoire, il est nécessaire que tu quittes ton pressoir. Ce pressoir dans lequel tu as peut-être battu du blé pour le Seigneur. Mais ce n'est pas dans le pressoir que le combat se ramenait. Ce pressoir, pour certains, c'est l'Église. Particulièrement, l'église de papa, maman et parfois de grand-père, de grand-mère, l'église où on a grandi tout petit. c'est notre pressoir. Et là, c'est vrai, eh bien, on peut battre le blé, on peut être ce chrétien, et puis on a trouvé cet endroit et prêt à servir le Seigneur. Le pressoir peut être aussi notre famille, notre cercle d'amis. On peut avoir tellement de pressoirs, tellement de lieux secrets, de lieux que nous gardons secrets, que nous voulons pas que les autres nous regardent servir Dieu. Voulons pas que le monde nous voit servir Dieu. On veut battre notre blé, le blé de la parole, mais à l'abri, dans le secret. D'un côté, Dieu se réjouit, il voit le cœur. Mais le Seigneur ne peut pas se contenter cela. Mais que dis-tu et que dirais-tu si ce soir le Seigneur s'approchait de toi pour te dire, eh bien maintenant, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et il est temps que tu sortes de ton pressoir, parce que maintenant je t'envoie. Maintenant je t'envoie. Je t'ai vu dans ton secret, et maintenant c'est publiquement que tu vas devoir te lever pour servir la cause du Seigneur. Alors on peut dire encore beaucoup de choses de la faiblesse de Gédéon, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est sorti. Il est sorti du pressoir, il est sorti de son secret, et il s'est exposé à la vue de tous. Oh, on verra avec Gédéon, il y a toujours de temps, parce que d'abord il va commencer de nuit, mais il finira aussi par le faire de jour. Gédéon nous ressemble tellement, ça fait du bien d'avoir des personnages comme Gédéon. Parce qu'à force d'être confronté à des Samson, à des David ou à des Paul, on se dit, mais où ai-je ma place? Merci Seigneur parce que tu as utilisé des Gédéon. Gédéon, enfin en conclusion, Gédéon est le symbole. Le symbole d'une génération qui n'a pas vu les miracles. On ne peut pas lui reprocher cela. D'une génération qui grandit sous l'oppression toujours plus serrée de l'ennemi spirituel. Et il semblerait que le pressoir devienne de plus en plus petit, tellement l'ennemi nous entoure. D'une génération qui aime servir Dieu et qui veut battre le blé, mais qui la plupart du temps n'a appris à le faire que dans le pressoir. Son cœur est pour Dieu. Cette génération veut véritablement sauver ce qu'elle peut, elle veut maintenir une différence, elle veut vraiment mettre tout son cœur, toute son énergie pour le Seigneur, mais le problème c'est qu'elle vit repliée dans son pressoir. Mais c'est aussi une génération qui est observée par Dieu. Une génération que Dieu veut envoyer pour la victoire. Je dis souvent à nos jeunes qui nous rejoignent de province ou d'étrangers qui arrivent dans cette assemblée, parce que je crois que c'est vraiment un ministère important de l'Église, que d'accueillir ces jeunes, de les encourager, de les former pour les lancer dans leur ministère. Je leur dis cela parce que moi-même j'ai vécu cette chose, et j'en parlais un petit peu, c'est que je leur dis, jusque-là vous étiez dans l'Église de papa-maman, aujourd'hui c'est fini. Et pour vous, cette Église, en quelque sorte, ça ne sera pas un pressoir, mais ça sera une ère, vous allez battre le blé. Ici, vous ne serez plus dans le secret, mais vous allez devoir prendre position, parce que vous n'aurez personne pour vous protéger. Vous n'aurez pas la famille, vous allez être seul, seul dans votre cercle familial, dans votre cercle professionnel, seul, exposé, mais le Seigneur est avec vous. Et dans ce lieu, dans cette Église, eh bien, ils commencent à servir le Seigneur. Ils sont comme des Gédéons peut-être. Peut-être ont-ils besoin que le Seigneur leur confirme plusieurs fois les choses. Mais ce n'est pas grave. Et on les voit aller avec la force. Ils n'ont peut-être pas encore l'expérience. Ils n'ont peut-être pas encore toute la plénitude du Saint-Esprit. Ils n'ont peut-être pas encore tous les dons qui sont nécessaires. Mais ils ont une force. Ils ont une force qui est dans leur cœur. Un amour pour le Seigneur. Et Dieu les voit. Dieu les observe. Dieu s'assoit, je crois que Dieu s'assoit aussi pour regarder nos réunions, pour peser nos cœurs. Et il cherche un Gédéon. Et moi je crois que tout comme Gédéon, cette génération va montrer au monde qu'elle est pleine de talent, d'intrépidité, et qu'elle va utiliser des méthodes nouvelles. Parce que nous le savons, Gédéon n'est pas allé par l'épée ou par la lance. Il est allé avec la torche et la trompette. Et il a remporté une victoire extraordinaire. Seulement, ce qui est clair, c'est que cette génération doit d'abord être une génération avec une mentalité nouvelle. Et le Seigneur veut te dire, tu es un vaillant héros. Le Seigneur veut te dire qu'il t'a observé. Dans ces petites choses que tu accomplis, dans ce secret dans lequel tu te sens bien à l'aise, il t'a observé. Il a jugé tes sentiments. Il a vu cette force qui est en toi. Mais il te dit maintenant qu'il faut sortir du pressoir. Sortir de cette mentalité du pressoir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à force de battre du blé dans le pressoir à vin, on va finir par s'asphyxier. Trop de poussière. Et il n'y aura plus le renouvellement d'air frais. Il n'y aura plus le renouvellement de l'esprit. Ça va devenir très religieux. Alors le Seigneur veut t'amener au-delà. Au-delà. Et ce que tu tenais secret va devenir public. Non pas que tu vas te mettre en avant, mais tu vas mettre l'évangile du Seigneur en avant. Le Seigneur veut que tu sortes de ton pressoir. Finalement, dans Ésaïe 49, verset 2, le prophète parlant du Messie à venir, de notre Seigneur Jésus, dit « Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » Tu es une flèche aiguë pour le Seigneur. Jusque-là, il t'a caché dans le carquois. Quelque part, c'est bien d'être dans le carquois. On est protégé. Mais maintenant, le Seigneur prend cette flèche. Il te prend, toi, et il te place sur son arc pour te propulser dans ce monde, pour que tu atteignes ta cible. Alors cesse de présenter au Seigneur des excuses. Et cesse de constamment repasser dans ton cœur, « Ah, le Seigneur, s'il faisait ceci, s'il faisait cela, et autrefois c'était comme ça. » Non, maintenant, va avec cette force et commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu dans cette assemblée, là où Dieu t'a conduit, dans ton environnement familial, amical, professionnel. Commence à faire rayonner l'amour de Jésus-Christ.